Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ça fait 9 ans qu'on attendait un nouveau film de Blier. Convoi exceptionnel, avec en haut de l'affiche Depardieu et Clavier, tient ses promesses. Celle d'une singularité qui a de l'épaisseur, du sens, de la folie et cette insolence dont Blier jamais ne se départira.
Europe 1.
Je reçois le plus libre des cinéastes français. Bonjour, Bertrand Blier.
Bonjour.
Bertrand Blier, alors ce nouveau film Convoi exceptionnel, c'est une allégorie sur le destin et la place du libre arbitre. Foster, joué par Clavier, qui rencontre Taupin, joué par Depardieu, est en possession d'un scénario terrifiant puisque c'est le scénario de leur vie. Dans votre film, on en connaît l'auteur, mais nous, les spectateurs, on ignore qui est le grand ordonnateur qui nous distribue les rôles ici-bas et nous les écrit. En fait, chaque vie est un film.
Peut-être, j'en sais rien. Non, je crois pas. Non, chaque vie a une espèce de programmation, ça je crois, oui.
Ouais.
Parce qu'on est les enfants de nos parents, parce qu'on a subi telle et telle aventure. Donc on est tout d'un coup programmé pour faire un certain type de vie, mener un certain type de vie, ce qui est mon cas.
Alors, vous dites, si on tenait le scénario de nos vies entre nos mains, ce serait plus simple. Mais en réalité, j'ai envie de vous répondre que ça serait plus compliqué. Non.
On pourrait faire des modifications en douce.
On pourrait
changer des trucs, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous auriez modifié, par exemple, dans le scénario de votre vie à vous?
J'aurais sans doute eu une plus grande influence sur le public. Parce que, bon, ma carrière est amusante, mais elle est ponctuée de succès et aussi d'échecs. Donc, l'un et l'autre, il faut supporter.
Mais il est intéressant, le relief.
Oui. Mais quand ça ne marche pas, c'est pénible, on est triste. C'est ça qu'il faudrait modifier.
Mais ça a souvent marché.
Ça marche toujours.
Ça a souvent marché. Vous êtes même allé jusqu'à Hollywood chercher l'Oscar du meilleur film étranger.
Oui, exact.
Alors Bertrand Blier, avez-vous écrit cette histoire, et là je reparle du scénario de Convoi exceptionnel, parce qu'en fait on est de moins en moins libre, on a tous nos feuilles de route et on s'y tient?
Non, je n'ai pas pensé à ça, j'ai pensé plutôt à... Je me suis dit, ces deux acteurs-là, j'ai d'abord décidé de faire un film avec Clavier et Depardieu. Ensuite, j'ai eu l'idée du scénario. Je me suis dit, s'il y en a un sur les deux qui a un scénario, ils n'ont pas tous les deux un scénario. Celui qui a le scénario, c'est forcément Clavier. Parce que Clavier, dans le film, fait un bourgeois, donc il a le scénario. Et Gérard, qui fait une espèce de cloche, n'a rien. Et il ne comprend pas.
Votre dernier film, Le bruit des glaçons, avec Jean Dujardin et Albert Dupontel, remonte à 2010, Bertrand Blier. Pourquoi presque une décennie entière sans un film de Blier?
Parce que c'est difficile de faire des films, de les monter, de trouver l'argent, de trouver des partenaires, et que ça s'est mal présenté pendant quelques années. Donc j'ai eu beaucoup de projets, j'ai beaucoup travaillé, mais sur des films qui sont dans mon armoire, mais que je n'ai pas tourné.
En fait, on peut se demander, Bertrand Blier, si au cinéma, plus que raconter une histoire, ce ne sont pas les acteurs qui vous importent et vous fascinent. C'est juste pour les filmer que vous n'êtes pas devenu écrivain?
Je pense que chez moi, c'est assez évident que j'aime les acteurs. Je suis fils d'acteur et ce n'était pas le moindre. Donc, mon enfance a baigné là-dedans. Et j'ai été caressé par la musique des acteurs, particulièrement de mon père que je faisais travailler, à qui je faisais répéter ses pièces, par exemple.
Oui.
Donc j'avais sa sonorité dans l'oreille et ça m'est resté. Et par la suite, ça s'est transformé en des mots sur du papier. Et puis aussi, beaucoup, mon enfance a été une enfance très littéraire.
Oui.
Parce que j'ai vécu au milieu des livres parce que mon père était un très grand amateur de livres. De deux manières, il était collectionneur, c'est-à-dire qu'il était bibliophile. Et en même temps, il achetait énormément de parutions. Donc il lisait beaucoup. Et tout ça, c'était pour moi.
Bien sûr, ça vous a nourri.
Tout ça arrivait dans ma chambre où il m'avait fait une bibliothèque, disons une bibliothèque d'attente, où il mettait les parutions récentes. Et je les lisais.
Alors, cette fois-ci, avec Convoi exceptionnel, vous avez détourné un tandem d'exception qui a fait vivre des films aussi différents que Les Misérables, Les Anges Gardiens, Astérix et Obélix et Napoléon. Je parle bien sûr de Depardieu et de Clavier. Depardieu, vous dites, j'ai jamais essuyé un refus de sa part. Je l'appelle juste pour lui donner des dates de tournage et il arrive. Il y a une sorte de contrat fraternel entre vous, Un contrat illimité dans le temps.
C'est pas un contrat, c'est une rencontre qui s'est faite en 73.
Mais j'ai dit fraternelle. Hein.
Oui, on s'est rencontrés alors qu'on était très différents et on s'est aperçu qu'on était des frères. C'est-à-dire qu'après, on a fait les valseuses et puis après, on a continué. Parce que c'était évident. Et pour lui et pour moi qu'il fallait qu'on fasse des films ensemble et plein.
Vous en avez fait combien
en tout
ensemble ?
On en aurait pu en faire plus. On en a, pour l'instant, on est à 8, je crois.
Pour l'instant.
Pour l'instant, oui. Alors, c'est le meilleur acteur, c'est le meilleur acteur d'Europe.
Ouais.
Donc, c'est facile. On dit moteur, on tourne. Jamais j'ai eu à lui faire des recommandations, ce qu'on appelle la direction d'acteur. Je n'en ai jamais parlé, on ne parle pas de ça.
Quant à Clavier, Bertrand Blier, il paraît que c'est en fait le hasard heureux d'un dîner avec Catherine Fraud qui l'a mis dans votre escarcelle, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels... Il y a des acteurs avec lesquels j'ai envie de tourner pendant des années. Et puis, ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité ou il n'y a pas d'histoire. Et puis, Clavier, je le suivais depuis ses débuts, depuis Les Bronzés. Donc, il m'avait toujours beaucoup fait rire et j'ai toujours trouvé que c'était un acteur formidable. Comme toute la bande, d'ailleurs. Michel Blanc, Junior, tout le monde, Josiane.
Vous aviez fait tourner tout le monde, d'ailleurs.
Alors maintenant, j'ai fait tourner tout le monde.
Ouais.
Et Clavier est un acteur exceptionnel. Donc j'ai été, en effet, quand une opportunité s'est présentée, c'était ce dîner où Catherine Fraud est venue dîner chez nous. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fous en ce moment ? Elle m'a dit, je tourne un film avec Christian Clavier. Ah, je lui dis, c'est bien, il est bien. Elle m'a dit, oui, il est formidable. Alors je lui ai dit, bah écoute, demain, dis-lui que j'aimerais bien faire un film avec lui. Donc elle lui a transmis le message. Et Christian en a parlé au producteur, qui était mon producteur aussi, qui a sauté sur l'occasion en disant, on va organiser quelque chose. Et on s'est retrouvés à un déjeuner où on a décidé de faire un film. Mais on n'avait pas d'histoire, on n'avait rien. On avait juste l'envie de...
L'envie de travailler ensemble.
De travailler, voilà. Et donc, j'ai dit à Christian, on va faire un film ensemble. Ça sera deux mecs. Il m'a dit, c'est qui l'autre ? Alors, je lui ai dit, écoute, il y a plusieurs acteurs qui peuvent le jouer. On a évoqué quelques noms. Et puis, au bout d'un moment, il m'a regardé avec des yeux de coquère. Et il m'a dit, pourquoi on ne prendrait pas Gérard ? C'est quand même le plus agréable de tourner avec Gérard.
En fait, vous l'avez amené à ce que vous souhaitiez.
Non, je n'y avais pas
spécialement
pensé.
Parce que vous pensiez bien faire ce film qu'on voit exceptionnel avec Gérard Depardieu.
Pas forcément.
Non ?
Non, pas forcément. Mais il y avait une espèce d'envie chez Christian qui était tellement touchante qu'on l'a fait. Quoi. On n'en a même pas parlé plus de 5 minutes.
Et effectivement, le duo à l'image est d'une force et d'une évidence magnifique.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Une heure d'échange en toute bienveillance. C'est Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec vous, Isabelle Morizet, et votre invité.
Libre, insolent, anticonformiste. Ces mots résonnent pour lui, Bertrand Blier, dont le nouveau film Convoi exceptionnel, en salle en ce moment, entraîne une pléiade d'acteurs absolument virtuoses derrière Depardieu et Clavier. Bertrand Blier est mon invité. Alors, Bertrand Blier, vous dites « La littérature est supérieure au cinéma ». Je vous ai entendu dire ça. Alors, j'aimerais qu'on creuse un petit peu l'affaire. Pourquoi l'enfant et l'adolescent dévoreur de livres que vous étiez, on l'a évoqué à l'instant, est-il tout de même finalement devenu cinéaste ?
Je me pose la question souvent. Je pense que j'avais envie d'écrire, certainement, quand j'étais gamin. Mais je n'osais pas le faire et je ne savais pas le faire. Donc, il y a eu un moment où le cinéma s'est présenté à moi parce que c'est pas parce qu'on est le fils d'un acteur qu'on connaît le cinéma.
Ouais.
Mon père ne m'emmenait pas trop sur les tournages et je ne rencontrais pas tous les jours des stars. Et puis un jour, au cours de vacances, j'ai fait la rencontre de Henri-Georges Clouzot.
Les Diaboliques, entre autres.
Et cet homme-là m'a subjugué. C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir que finalement, dans le cinéma, il y avait un mec qui avait le plus beau rôle, c'était le metteur en scène. Et j'ai dit à mon père, tu sais, parce que mon père s'inquiétait beaucoup, il me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Parce que je faisais des études quand même plutôt assez lamentables. Et quand on a un fils, on a toujours cette angoisse-là. Et donc, et je lui disais, je ne sais pas, je réfléchis. Et puis un jour, je suis allé le voir et je lui ai dit, tu sais, j'ai décidé, mon métier, quand je serai un peu plus âgé, ce sera metteur en scène de cinéma.
Et sa réaction ?
Il m'a dit, tu vas te faire chier toute ta vie. Mais c'est bien, je vais t'aider. Donc, en effet, j'ai eu des moments, je me suis fait chier beaucoup. C'est vrai qu'il y a des moments très difficiles. c'est un très beau métier, mais c'est un métier qui donne des maladies, qui donne des angoisses. Il faut prendre des médicaments, il faut se calmer. Un metteur en scène de cinéma n'est jamais en pleine forme. Il est toujours très fatigué. Il est toujours en train de prendre des médicaments pour se calmer du film d'avant. C'est un truc c'est assez effrayant. C'est souvent un cauchemar.
Mais pourtant, jamais au cours de votre carrière, Bertrand Blier, vous n'avez eu idée de changer d'aiguillage. Le cinéma, c'était votre substantifique moelle, c'était en vous. Vous n'avez jamais eu l'idée d'arrêter.
J'ai fait d'autres choses. J'ai écrit des romans, particulièrement le premier qui était Les Valseuses, où j'étais à une époque, j'étais très jeune, mais j'avais 30 ans. C'était une époque où je ne faisais plus rien, j'étais ringard, je ne travaillais plus dans le cinéma, je ne faisais rien, et j'en étais arrivé au point de me dire « il faudra trouver un autre boulot, parce que le cinéma, ça ne donne rien ». Et donc j'ai écrit ce roman, et ce roman a été un succès, et les producteurs m'ont téléphoné en disant « on veut faire le film ». Alors j'ai dit « d'accord les gars, on y va », et j'ai fait le film. Et qui donc a été le succès qu'on sait avec Gérard et Patrick, et Miu Miu, et donc voilà. Bon. Donc c'est un conte de fées.
Alors, vous dites, Bertrand Blier, au début, lorsque j'ai annoncé à mon père que je voulais diriger des acteurs, être cinéaste, ça s'est plutôt bien passé, il m'a aidé pour démarrer, il m'a trouvé un stage sur un film de Lautner. Mais après, les rapports sont devenus plus complexes?
Oui, c'est toujours complexe, entre un père et un fils, ou entre une mère et une fille. Ce sont des rapports difficiles, mais on a eu des moments où on s'est frité, oui. Mais ça s'est quand même pas mal passé. La preuve, c'est qu'on a fait des films ensemble.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous aviez 24 ans, Bertrand Blier, lorsque donc ont été tournés Les Tontons Flingueurs, film cultissime de Lautner, avec Lino Ventura, Francis Blanche, Paul Meurice, Jean Lefebvre, Claude Riche, Robert Dalban et bien sûr votre père, Bernard Blier. Vous étiez sur le tournage ou pas?
Ah non, du tout.
Du tout?
Pas du tout.
Et vous n'avez pas du tout eu la curiosité, l'envie, du tout?
Non. Mais je suis rentré dans l'équipe de Georges Lautner plus tard.
Oui.
Au début, j'ai travaillé avec d'autres équipes. J'ai travaillé avec l'assistant de Jean Renoir.
Oui.
J'ai fait un film avec Christian Jacques qui s'appelait Babette s'en va en guerre avec Brigitte Bardot.
Oui.
J'ai fait des films comme ça, assez marrants. Donc j'ai appris mon métier en étant stagiaire, puis deuxième assistant, jusqu'au jour où mon père m'a fait rencontrer Lautner.
Oui.
Et il s'est démerdé pour user de son influence auprès de Georges Lautner, pour que Lautner m'engage dans son équipe. Et Lautner, qui n'était pas très chaud, m'a quand même engagé, et on s'est bien entendu. Et après, j'ai fait 5 ou 6 films avec Lautner, dont Le Monocle Noir, des choses comme ça. Et puis, il y a eu d'autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, comme Denis de la Patellière,
oui,
des gens comme ça, et Delannoy. J'ai fait un Maigret, par exemple, avec Gabin.
C'est vrai?
Oui, oui, ça, c'était bonheur, parce qu'il y avait Gabin, quoi. Donc, côtoyer Gabin tous les jours, c'est une chance aussi extraordinaire, qui m'a appris beaucoup.
Mais alors, Gabin, il paraît que vous avez voulu la voir dans un de vos films, et ça n'a pas été possible parce qu'il vous a dit cette fois-là, beaucoup plus tard, je suis beaucoup trop cher pour vous.
Non, c'est-à-dire que je voulais le faire rentrer dans Calmos.
Ouais.
Je voulais qu'il fasse l'évêque. Il y a un personnage d'évêque qui vient un soir pour manger un gigot avec des haricots. Et donc, je voulais que ça soit Jean Gabin. Et donc, je l'ai contacté, et il m'a reçu très gentiment parce qu'il m'aimait beaucoup. Et il m'a dit, écoute... ça m'étonnerait que je le fasse, mais enfin, est-ce que tu as un producteur? J'ai dit, oui, j'ai un producteur. Et il m'a dit, est-ce qu'il a du pognonos?
Il parlait comme ça, Gabin.
Comme ça. Alors, je lui ai dit, oui, il a du pognonos. Alors, dis-lui de venir à 15h me voir. Donc, mon producteur, qui était Christian Fechner, je lui ai dit, tu as un rendez-vous avec Jean Gabin à 15h. Il était dans ses petits souliers. Il va au rendez-vous, et Gabin lui dit, vous savez, moi, que je tourne 1 heure ou 3 mois, c'est le même prix. Donc, le pauvre Christian Fechner, il a calé quand même un peu.
Bien sûr.
On a tous calé, on a dit, c'est pas possible pour 2 jours de payer le prix de Gary Cooper. Et donc, on n'a pas eu Jean Gabin.
Vous n'avez pas eu Jean Gabin, mais vous l'avez vu tourner dans un Maigret auquel vous avez participé.
Alors,
donc,
j'ai fait 2 films avec lui, j'ai fait un Maigret, et puis j'ai fait un film qui s'appelait Rue des Prairies.
Oui.
Avec lui, et mis en scène par Denis de la Patellière. Et c'était des films assez marrants, avec des dialogues d'Audiard. Audiard venait toujours pour livrer des pages, parce que Gabin lui demandait toujours des dialogues supplémentaires. Donc Michel Audiard venait dans sa Porsche et il livrait des pages.
Vous qui êtes si attaché au dialogue, Et vos films, vous les écrivez toujours. Et vous les écrivez seul d'ailleurs, et sans scénariste, Bertrand Blier. Vous avez eu des conversations avec Audiard, justement, sur ce matériau-là. Quel dialogue ?
Pas du tout, parce que Audiard, il avait d'autres problèmes. Il n'avait pas à s'occuper de moi. Il me connaissait, il me disait bonjour. Il me dit, quand il me voyait, il me disait, comment va ton grand-père ? Est-ce qu'il est toujours aussi con ? Je disais, oui, c'est vrai que... Bon, mais... C'était ça, l'ambiance. Mais on n'a jamais parlé, Michel Audiard et moi, on n'a jamais parlé de... On se croisait. Voilà. C'est dommage, on aurait pu faire des choses ensemble.
Vous auriez pu.
Il y a plein de gens avec qui j'aurais pu faire des choses et qui sont morts trop jeunes.
Ouais.
Moi, j'ai commencé trop tard. Par exemple, Lino Ventura, que j'ai bien connu, était un acteur pour moi.
Bien sûr.
Il aurait été très à l'aise dans mes films. Mais ça n'a pas été possible parce qu'il est mort, je n'avais pas encore commencé à cartonner, comme on dit. Mais il serait venu.
Il serait venu.
Ah ben oui, bien sûr. Et content en plus.
On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite Bertrand Blier.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
15h20, on retrouve Isabelle Morizet et le réalisateur des Valseuses pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Convoi exceptionnel en salle depuis mercredi nous pose les vraies questions. Est-ce que vous voudriez le tenir en main, le scénario de votre vie, de votre naissance à votre mort ? Je reçois Bertrand Blier, auteur et réalisateur de ce film que vous n'oublierez pas. Bertrand Blier, à l'époque où vous avez commencé à faire des films, les cinéastes, on l'a dit tout à l'heure, s'appelaient Fellini, Kubrick, Bergman, tout était grand, la folie, l'ambition, le talent, les moyens. Beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Oui, pour certains metteurs en scène, il y avait des gros moyens. Mais pas tous. Il y avait des metteurs en scène en France. Il y avait la Nouvelle Vague. Il y avait des films qui se faisaient avec peu d'argent.
Oui, bien sûr.
Ce qui est important, c'est de se... Je me dis souvent ça quand j'ai fait Les Valseuses. Le film qui était sorti l'année d'avant, c'était Orange Mécanique. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est un moteur extraordinaire. Quand Orange Mécanique existe... On ne fait pas les mêmes valseuses que s'il n'y avait pas Orange Mécanique.
La révolution avait eu lieu.
C'est-à-dire qu'il y a de la violence, il y a de l'audace, il y a quelque chose que Kubrick apportait, qu'on n'a plus aujourd'hui.
En France, donc, effectivement, on faisait aussi des films avec des moyens plus resserrés. Il y avait Godard, il y avait Verneuil, Chabrol, Claude Sautet, Truffaut. Vous dites que les films de Claude Sautet vous restent beaucoup plus en mémoire que les films de Truffaut. Pourquoi ?
J'aimais bien Truffaut, mais je pense que le vrai metteur en scène, le vrai cinéaste, témoin de son temps, c'est Sautet. Parce que Claude avait une façon de regarder les gens de son époque, de les filmer, de les montrer, qui était exceptionnelle.
Et en même temps, vous, l'anticonformiste qui aimait tant les films de Claude Sautet, eh bien justement, vous saluez un cinéma qui est tout en pudeur. Il est à l'opposé du spectre.
Il est à l'opposé, mais il y a quand même de la parenté. Certainement, oui, certainement. On se connaissait un peu avec Claude. Il y a de la parenté, c'est-à-dire qu'il a fait tourner Depardieu, il a fait tourner Devers, par exemple.
Oui.
Bon, c'est pas un hasard.
Alors, de vous, Bertrand Blier, vous dites « Je suis le cinéaste français pas correct, je ne serai jamais correct, je suis un très sale gosse, très mal élevé. » Cette envie d'aller aussi loin qu'on puisse aller trop loin, dans les scénarios comme dans les dialogues, et puis de tordre le cou à toutes les conventions, en fait, elle vous vient de quoi ? Vous l'expliquez comment ? Et vous y êtes fidèle depuis presque un demi-siècle.
Alors, je ne l'explique pas. Je me pose souvent la question, parce que quand même, à mon âge, on se pose un certain nombre de questions. Je me dis, mais pourquoi tu es tellement voyou ? Tu n'as jamais été élevé comme un voyou.
Ben voilà !
Oui, mais j'ai eu des lectures de voyous. Et mon père, quelque part, était assez voyou aussi. Donc, ça circulait librement, cette fréquentation-là. Donc, quand j'ai fait des films, particulièrement Les Valseuses, c'était vraiment un film de voyou. C'est pour ça qu'il a marché. Et je sentais, à cette époque-là, j'avais la rage. J'avais envie de faire sauter la banque.
Ouais.
Mais pourquoi, je ne sais pas, je n'avais pas de raison. C'était un truc de culture.
Il vous est arrivé, Bertrand Blier, que des acteurs refusent de dire vos dialogues ?
Non. Ils refusent parfois de faire les films. Ça, oui. Mais une fois qu'ils sont engagés, ils disent les dialogues. Parce que les dialogues sont bons. Les acteurs sont contents quand ils ont des bons dialogues.
Ils sont toujours efficaces, oui. Toujours. Mais parfois, ils sont d'une trivialité, ils sont crus. Ils explosent complètement les conventions. Par exemple, est-ce qu'il est vrai que vous vouliez faire tourner Victor Lanoux dans le film Début de soirée. vous lui avez envoyé le scénario avec les dialogues et il paraît qu'il vous a appelé au téléphone, il vous a hurlé, vous avez de la chance de ne pas être en face de moi parce que sinon je vous mettrais bien mon poing dans la gueule.
Il voulait me casser la gueule. Oui,
oui, parce qu'il trouvait les dialogues
non,
si
mais
crus.
Le rôle que je lui avais proposé était assez hard et ça ne lui a pas plu du tout. Et ensuite, bon, il n'a pas fait le film, et ensuite c'est Marielle qui l'a joué,
ouais,
sans problème et qui était merveilleux.
C'est drôle parce qu'en fait, Marielle, lui, avait cette audace folle, acceptait des choses que la plupart des stars françaises mettaient du temps à intégrer.
Ah, mais j'ai eu beaucoup de gens qui ont accepté, qui ont dit les dialogues. J'ai même fait un film avec Alain Delon, il disait les dialogues, il n'y avait jamais de problème.
Par exemple, dans Convoi exceptionnel, qui est en salle donc depuis mercredi, il y a un monologue absolument extraordinaire d'Alexandra Lamy, avec une phrase qui n'est pas évidente à un moment donné. Il y a une sortie qui est extrêmement crue. C'est d'une verdeur étonnante
faut
dans la bouche d'une
exagérer.
Femme.
Elle dit simplement « qu'est-ce que j'en ai pris dans le cul ?» C'est pas...
Mais est-ce que vous croyez que toutes les actrices le disent, le jouent, avec un tel lâcher-prise ?
Je pense que beaucoup d'actrices auraient refusé.
Et ben c'est pour ça que je vous pose la question.
Mais il y en a toujours une qui accepte. Il ne faut pas se tromper, quoi, c'est tout.
Mais vous dites quand même que beaucoup d'actrices
oui, parce qu'il y a des, il faut prendre des acteurs dont on sait qu'ils vont être bons, quoi. Il faut être sûr de ça. Il ne faut pas se tromper. C'est le secret du cinéma.
Alors, il y a une autre actrice dans ce film, c'est Farida Rawaj,
oui,
qui, en fait, vous êtes fidèle, et à qui vous êtes fidèle depuis de nombreuses années, et qui a un monologue d'une intensité folle et incroyablement bouleversant.
Ouais.
Pourquoi n'est-elle pas plus utilisée au cinéma, cette femme ?
Ben, elle a fait du théâtre, beaucoup, et elle fait du cinéma ou des séries pour la télévision, mais elle n'a pas encore fait la carrière qu'elle va faire, maintenant, je pense.
Elle va la faire, cette carrière,
je
maintenant.
Je pense, oui. Parce que là, vraiment, il y a un truc fantastique qui se passe. C'est-à-dire qu'elle avait un monologue à jouer, très long, et les monologues, quand on est immobile dans un décor entouré d'acteurs et qu'on doit parler, qu'on est tout seul... C'est pas de la tarte, quand même. Et j'étais inquiet, je me disais, ça va peut-être être dur. Et donc, en plus, comme c'est ma compagne, c'est toujours très difficile de mettre en scène sa propre femme devant une équipe, devant les autres acteurs. Il y a une espèce d'impudeur. Et donc, je dis moteur, en me disant, on va faire un round d'observation. Et elle me sort la scène, mais impeccable à la première prise, bouleversante. Donc ça s'appelle faire un cadeau à son metteur en scène. Moi, j'y avais fait un cadeau en lui écrivant le texte qu'elle rêvait de dire. Mais elle l'a dit d'une manière... tout le monde avait les larmes.
Oui, et je peux vous dire que c'est ainsi que nous, spectateurs, on le reçoit. Lorsqu'on a les yeux levés vers l'écran.
Et ça, c'est une des qualités du cinéma français. C'est-à-dire qu'on sait faire ça en France. Les Américains ne savent pas. C'est-à-dire que le film s'arrête. Tout d'un coup, et il y a quelqu'un qui prend la parole et qui raconte un truc.
Pourquoi les Américains ne savent pas ?
C'est pas leur culture. Nous, on a ça, parce que la France est un pays littéraire. Donc on a ça, et on le fait, et puis on a le culot de le faire. Pouvoir faire ça, c'est une chance.
Je reçois cet après-midi Bertrand Blier. On fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. L'invité d'Isabelle Morizet fête ses 80 ans. Cette année, il s'est fait un nom au cinéma, parvenant à se démarquer d'un père plutôt imposant.
Je reçois Bertrand Blier, dont le nouveau film, qu'on voit exceptionnel, est à l'affiche avec son acteur fétiche, Depardieu, mais également Christian Clavier, Alex Lutz, Audrey Dana, Farida Rawaj, Alexandra Lamy. Voilà. Alors, cher Bertrand, sans flagornerie, vraiment, hein, en fait, en 80 ans, qui a produit vos souvenirs les plus forts ? La vie ou le cinéma ?
Ben, on ne peut pas répondre à cette question, parce que dans la vie, il y a des choses quand même qui se passent. Il y a l'amour, il y a la naissance des enfants, il y a tout ça. Bon, les enfants, ce n'est pas rien non plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs de cinéma, oui. Des grands souvenirs.
Des angoisses,
des peurs, le trac.
Ouais.
Ma première scène avec Delon, par exemple, quand il est arrivé sur le plateau pour tourner son premier plan. Il arrivait et je me disais, c'est Clément, c'est Melville, c'est Fellini, c'est Visconti, c'est Rocco et ses frères qui arrivent. Attention, mon gars, fais pas le con. J'ai eu la même chose avec Marcello Mastroianni.
Ouais.
Quand il est arrivé, c'était pareil. Ce sont des monstres. Tourner avec Gérard, Depardieu, c'est plus facile parce qu'on est de la même province.
Vous avez dit que c'était votre frère au début de cette conversation.
On est des frères, on a fait les mauvais coups ensemble. Mais Marcello Mastroianni et Delon, je ne les connaissais pratiquement pas. Faut du culot.
Alors, pour le grand public, Bertrand Blier, vous êtes apparu en 1974, effectivement, avec Les Valseuses, film d'une insolence totalement décomplexée. Mais il faut dire que, voilà, la même année sortait Orange Mécanique, Le Dernier Tango à Paris, La Grande Bouffe. Le cinéma faisait sa révolution, n'est-ce pas? Bon, Les Valseuses n'auraient sans doute pas eu la même portée sans le duo magnifiquement transgressif Depardieu-Devers. Le film était interdit aux moins de 18 ans, mais il a quand même fait 5 700 000 entrées à l'époque. Et il paraît qu'au départ, le producteur du film ne voulait pas de Depardieu.
C'est pas qu'il voulait pas de Depardieu, mais il me disait, parce qu'on a fait un casting très long, on a travaillé 6 mois pour trouver les acteurs, pour les choisir. C'est normal, mais le film reposait là-dessus. Donc mon producteur, qui était charmant, qui était un très bon producteur, me dit, il voyait Gérard arriver, il me disait, mais t'as vu sa tête? T'as vu ce nez qu'il a? Les femmes vont jamais supporter. Mais il aimait beaucoup Patrick, il me disait, prends Patrick, et puis... Mais prends pas ce Depardieu, là. Donc finalement, on l'a pris quand même. Bon, donc c'était formidable. Et j'avais mon père, qui était de l'autre côté, qui me donnait des conseils par téléphone, et qui, lui, avait travaillé avec Gérard au théâtre, et qui me disait, mais pourquoi tu t'emmerdes à recevoir des acteurs toute la journée? Alors il y en a un que tu vas prendre, et qui est le meilleur, c'est Gérard Depardieu. Voilà. Et mon père me faisait une pression qui me paralysait un peu. Parce qu'on n'a jamais forcément envie d'écouter les conseils du père.
Ouais.
Donc il me disait, tu vas le prendre, alors arrête avec tes conneries, arrête.
Mais il paraît que Depardieu ne cessait de venir vous voir pour
oui,
vous convaincre.
Oui, bien sûr, parce que c'est un séducteur. Il voulait faire le film.
Ouais.
Donc il venait nous voir presque tous les jours, et il se démerdait pour avoir des tenues, des costumes différents. C'est-à-dire qu'il venait bien habillé un jour, et puis le lendemain, à poil, et puis là, pieds nus... Et donc, y avait un côté, c'est comme une thérapie, c'est-à-dire qu'on s'est habitué.
Ouais.
Et un jour, on s'est dit, bon, c'est lui, il n'y a pas de problème.
Arrêtons de chercher. Alors, Bertrand Blier, effectivement, Depardieu, vous dites, il est l'artiste complet, total, absolu. Et j'ai beaucoup aimé, quand vous dites, en fait, on peut lui dire, tu t'appelles Picasso, on va te filmer en train de peindre une toile. Et il le fait. Et on croit voir le geste et l'œil de Picasso sur la toile. C'est ça, Depardieu.
Par exemple.
Par exemple.
Il peut diriger un orchestre symphonique.
Ouais.
Il le fera, il a bien fait un film sur la viole de gambe, avec Corneau, qui voulait le faire travailler, il le fait répéter beaucoup, travailler beaucoup la viole de gambe. Gérard n'est jamais allé aux leçons de viole de gambe.
Ah oui.
Il est arrivé, il a dit, je mets mes mains comme ça, je joue comme ça, voilà, ça va marcher. Et il l'a fait, mais sans, n'importe comment. Et ça a marché.
Et ça a marché. Et
c'était un triomphe.
Bon, ce film Les Valseuses, il est sorti en plein MLF. Il y avait des manifestations devant tous les cinémas. Des gens éminents dans le pays demandaient son interdiction, carrément. Mais vous avez reçu l'aval de Luis Buñuel. Il paraît que ça vous a inondé de bonheur.
Je l'ai rencontré plus tard à Mexico. Il est venu vers moi, un petit bonhomme avec des yeux énormes. Et il m'a dit, la scène dans le train avec la fille qui se fait sucer les seins par les deux gars, là. C'est très érotique, il m'a dit. C'est très érotique. J'étais content comme tout. Après, on est allé chez lui, on a bu un coup. Et voilà, c'était un immense metteur en scène.
Bertrand Blier, l'insolence, vous me pardonnerez si je dis au parfum de misogynie, mais enfin, cette insolence-là, elle a baigné tous vos films avec parfois des paroxysmes, comme par exemple dans Calmos. Alors, pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui, l'insolence, tout le monde s'en fout alors que, tout de même, on vit dans une société qui, au contraire, contrôle tout et passe tout au tamis. Mais vous dites qu'aujourd'hui, l'insolence, tout le monde s'en fout.
Oui, parce que dans le cinéma actuellement, il n'y a pas de metteur en scène insolent. Il n'y a pas de voyous. Il y a des bons metteurs en scène, il y a des types très forts, comme Jacques Audiard ou des gens comme
voilà.
ça.
Mais bon, mais Jacques Audiard n'est pas insolent.
Mais c'est pas un insolent, vraiment. Des mecs qui ont cette outrecuidance que j'ai pu avoir à une certaine époque, que je n'ai plus, il n'y en a pas.
Alors vous dites, cette outrecuidance que j'ai eue à une époque, je ne l'ai plus. Donc je vous pose cette question, est-ce que Convoi exceptionnel, qui est en salle depuis mercredi avec Depardieu et Clavier, est un film insolent?
C'est un film soft. C'est un film qui pose des questions angoissantes sur la vie, sur la mort, etc. Mais ce n'est pas un film insolent, ce n'est pas un film de voyous. C'est un film qui se fréquente, qu'on peut recommander.
Et qui répond en fait aux questionnements qui sont les vôtres aujourd'hui?
Ça, je ne sais pas, probablement, oui, parce que si j'ai écrit ça, c'est que ça correspond à quelque chose. Il faut le croire, parce qu'on n'écrit pas impunément. On écrit des trucs qui vous interpellent. Donc c'est vrai qu'arrivé à un certain moment dans la vie, à 70, bientôt 80 ans, on est hanté par des trucs. On a des problèmes, par exemple, on a des grands-enfants, on a du monde autour de soi, on a fait tout un parcours. Donc on se pose des questions et on se dit, comment ça va finir? Le plus tard possible, évidemment. On va faire en sorte que... Mais qui ne se pose pas cette question?
Bien sûr.
Et plus on a une vie riche et pleine d'événements, plus on se la pose.
Et moins on a envie de la quitter.
Ben pas trop, oui, pas trop.
On s'interrompt. Vraiment. Une poignée de secondes, on retrouve tout de suite Père Tremblier.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec vous Isabelle Morizet et votre invité Bertrand Blier, de retour avec Convoi Exceptionnel.
Pour Convoi Exceptionnel, Bertrand Blier retrouve son acteur fétiche, Gérard Depardieu, mais pas que. Christian Clavier, Alex Lutz, Audrey Dana, Alexandra Lamy, une myriade d'acteurs absolument virtuoses qui participent en fait à ce conte aussi réjouissant qu'inquiétant. Alors cher Bertrand Blier, je continue dans mes questions, il y a vraiment une chose qui m'intrigue. Pourquoi Belmondo a-t-il toujours refusé vos propositions? Vous dites lui avoir couru après pendant plus de 30 ans, il a toujours dit non. Vous faisiez peur à Belmondo?
Non, il n'a pas toujours dit non, mais je n'ai pas couru après lui tellement. Il a tourné avec moi dans Les Acteurs.
Oui, mais tout le cinéma français, en fait, s'est tout retrouvé dans ce film-là.
Enfin, il est venu quand même, il s'est fait tirer l'oreille. Mais
il s'est fait tirer l'oreille?
Oui, oui, oui.
Mais sur les autres films, parce mais que vous lui avez fait plein
Calmos.
De propositions.
Mais il a refusé Calmos, c'était un film qui était prévu pour Belmondo, Jean-Yann.
Oui.
Et Jean-Yann, évidemment, m'avait dit oui, parce que Jean-Yann était un type bourré d'humour, fantastique. Et Jean-Paul il m'a dit, tu sais, je ne peux pas faire des films comme ça. Je crois qu'il était feignant, il ne voulait pas travailler.
Et ce n'était pas par crainte de perdre une partie de son public?
Je ne crois pas, non, il n'est pas comme ça, Jean-Paul. Mais c'est dommage, parce que c'est quelqu'un avec qui je me suis entendu très bien. Après, quand il est venu tourner sur Les Acteurs, c'était un enchantement, quoi.
Oui.
Parce qu'on est fait pareil, on est de la... c'est comme de tourner avec Depardieu, tourner Jean-Paul, c'est la même famille.
Vous avez tourné avec votre père, et avec votre père, il y a une scène que je voudrais qu'on évoque, parce que c'est quand même tout à fait étonnant de diriger ainsi son père. C'était sur le tournage de Buffet froid, Bernard Blier donc était âgé déjà, vous l'avez fait grimper dans une barque ultra instable, sur de l'eau apparaît-il 5-6 degrés, avec dans la barque, bien sûr, Gérard Depardieu, vaguement bourré, dites-vous, ce sont
qui
vos propos.
Bu la veille.
Voilà, Depardieu qui gesticulait dans tous les sens. Et quand les techniciens ont poussé la barque qui est partie à la dérive, il paraît que votre père vous a dit quelque chose de terrible.
Non, c'est-à-dire que vous oubliez l'essentiel.
Alors dites-nous,
c'est
racontez-nous.
Que mon père n'a jamais su nager, mon père était aquaphobe.
D'accord.
Parce que quand il était enfant, son frère aîné l'a poussé dans une piscine. Il a failli mourir noyé. Donc, il avait 5-6 ans. Donc, il n'a plus jamais voulu aller dans l'eau. Et quand on allait en vacances avec mes parents et moi, au bord de la mer, mon père allait un peu dans l'eau jusqu'aux genoux.
Oui.
Voilà, c'est tout. Et donc, quand j'ai tourné cette scène dans Buffet froid...
Mais déjà, vous avez eu l'audace de la lui proposer. Et
oui,
il a eu l'audace de l'accepter.
Oui, mais lui, c'est les acteurs sont des fous, donc il dit oui. Et je lui ai dit, il m'a dit, il y aura des hommes grenouilles. J'ai dit, il y aura plein d'hommes grenouilles. Mais bon, les hommes grenouilles, bon, quand on est dans de l'eau à 5 degrés et qu'on a 75 ans, bon, c'est pas bon quand même. Donc, on a poussé la barque. On s'est approché de la barque pour la pousser.
Oui.
Et il m'a dit à l'oreille, tu vas quand même pas buter ton vieux. C'est fantastique. Et il a joué la scène et Gérard bougeait beaucoup dans la barque.
Oui.
Et on a eu très peur, on a tourné une prise. Et après, on pousse, on me l'a mis une doublure, et on a poussé la doublure dans l'eau. Gérard le pousse, évidemment.
Bien sûr.
Sinon, ça ne serait pas Buffet froid.
Cher Bertrand Blier, le cinéma français a remis à votre père un César d'honneur, un César pour l'ensemble de sa carrière, le 4 mars 89. Votre père est décédé le 29 mars 89. Il savait que c'était un au revoir?
Oui, il devait le savoir, mais on n'en parlait pas de ces choses-là. On ne voulait pas qu'il y aille. On a tout fait pour qu'il n'aille pas à cette cérémonie.
Pourquoi?
Parce qu'il était très malade et que donc il fallait un fauteuil roulant, il fallait toute une installation énorme. Et moi, j'étais en liaison avec Georges Craven, qui me proposait d'autres solutions. C'est-à-dire, oui. Par exemple, de faire un duplex, d'installer une équipe chez mon père, dans son appartement, dans son bureau, et on aurait filmé mon père en duplex avec les Césars, et toute la salle aurait vu Bernard Blier à son bureau en robe de chambre avec sa pipe, et tout le monde se serait levé et lui aurait fait la même ovation.
Oui.
Et lui, il voulait venir, il voulait être sur scène. Il voulait dire au revoir. Donc il est venu et ça a été un moment, dont je vous passe les détails, mais évidemment extrêmement pénible à vivre parce qu'on était derrière.
Mais magnifique pour lui.
Magnifique pour lui et on est mal placé pour le dire.
Bertrand Blier, vous allez au cinéma ou bien vous regardez les films chez vous, vautrez dans un divan?
Je ne vais pas beaucoup au cinéma, j'y suis allé beaucoup. Mais maintenant, je les vois plus facilement chez moi, oui.
Alors, la polémique sur Netflix, oscarisé pour Roma, ce film qui ne passera jamais en salle, vous en dites quoi? En fait, est-ce que le cinéma est menacé?
Le cinéma est toujours menacé. Il a été menacé d'abord par l'arrivée de la télévision, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et puis, maintenant, c'est Netflix. Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je crois qu'il y aura toujours des salles de cinéma et que les gens auront toujours envie d'aller dans des cinémas, voir des films sur des grands écrans. Mais il y a
un film, c'est fait pour être partagé. Vous voulez dire par là que regarder en solitaire sur l'écran de son iPad, c'est pas ça le but. Il faut être ensemble.
Non, mais on peut voir les films chez soi sur des écrans assez conséquents.
Oui, aussi.
Mais on voit très bien les films. Moi, je me souviens avoir découvert, j'ai montré à mon fils 2001 Odyssée de l'espace ou des films comme ça à la maison sur le téléviseur. C'est formidable. Il faut avoir du très bon matériel, évidemment. C'est comme pour tout. Mais ça passe. Mais c'est mieux en salle. Moi, j'ai vu 2001 à l'Empire, au moment de la sortie du film, en 70 mm. C'est un souvenir inoubliable.
Donc vous dites qu'en fait, le cinéma résistera. C'est une fausse polémique avec Netflix qui, en fait, a d'autres supports.
Je crois que Netflix gagnera la partie parce que Netflix va tout acheter. Et il y a beaucoup de films qui pourront se faire grâce à Netflix, parce qu'ils ont les moyens.
Oui.
Et que nous, dans le cinéma, on ne les a pas toujours.
Oui.
Donc il y a des films que moi, je n'ai pas faits et que je pourrais faire avec Netflix.
Eh bien, voilà.
Mais je ne vais pas forcément courir chez Netflix et les voir, je n'ai pas besoin. C'est sympa d'avoir des producteurs, de voir des gens qui prennent des risques et qui sont dans l'équipe, c'est bien aussi.
Il y en a encore des producteurs qui prennent des risques en France?
Il y a des producteurs qui prennent des risques ou qui en font prendre aux autres, particulièrement aux chaînes de télévision. Mais on fait beaucoup de films en France. Donc le cinéma français n'est pas en péril, à mon avis.
On retrouve tout de suite Bertrand Blier.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Il est 15h48 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un entretien bienveillant à deux voix. Cet après-midi, Isabelle Morizet, vous recevez le cinéaste Bertrand Blier.
Bertrand Blier, vous avez écrit 3 romans, 2 pièces de théâtre, 20aine de films, Convoi exceptionnel avec Depardieu, Clavier, Alex Lutz, Audrey Dana, Guy Marchand, Alexandra Lamy et la très étonnante Farida Rawatch est en salle depuis mercredi. La prochaine œuvre, vous savez quelle forme elle prendra?
Ce sera un film.
Il est
je
déjà
passera à Paris. Non, je l'ai
il
pas
est
écrit.
Déjà écrit.
J'ai l'histoire.
Vous avez l'histoire.
Ah, j'ai une histoire. Il faut l'écrire. J'ai une histoire, oui. Mais j'ai toujours des histoires. J'en ai au moins 2 ou 3 de près.
Enfin, alors,
des histoires.
Le choix se fait comment?
Après, il faut que ça vienne sous le stylo. Il faut que ça vienne sur le papier, quoi. Si ça ne vient pas, on passe à autre chose.
Il faut qu'elle vous obsède.
Il faut que l'histoire se déroule presque d'elle-même. On n'a pas besoin d'écrire 1000 pages. Un scénario, c'est 70 pages.
Par le passé, vous avez réalisé des pubs, Bertrand Blier. Ça veut dire que votre insolence qui dynamite tout, en fait, n'était pas dangereuse aux yeux des pubeux. Au contraire, celui qui a signé Les Valseuses, forcément, allait pouvoir s'aventurer sur des chemins inattendus. C'est ça qu'on espérait de vous?
On m'a proposé de faire des pubs, on m'a contacté, j'ai eu des réunions. Les pubs, c'est souvent le produit d'une équipe. Il y a le produit, il y a le client, il y a l'agence, il y a les créatifs, il y a tout le monde. Donc le metteur en scène qui est là-dedans, au milieu, a du mal à faire valoir son envie.
Oui.
Mais j'en ai fait quelques-unes qui étaient marrantes, oui.
Comme par exemple pour...
J'ai fait des yaourts, Yop, J'ai fait les premiers Yop.
Bon, alors comment Bertrand Blier, le plus libre, le plus anticonformiste, le plus délicieusement provocateur des cinéastes, s'empare-t-il d'un sujet comme les yaourts?
On m'a proposé de faire du yaourt, j'ai fait du yaourt.
Mais vous avez forcément mis, je ne vais pas dire le grain de sel dans le yaourt,
non,
parce que ça le ferait tourner allègre.
J'ai fait des pubs qui passaient, hein, qui passaient à la télévision partout.
Vraiment.
J'ai fait des postes, la poste, j'ai fait beaucoup de postes. Et j'avais trouvé un truc, c'est que j'écrivais des pubs en dialogue. C'est-à-dire que c'était des dialogues et je faisais venir des acteurs, des galabrus, des gens comme ça, qui venaient jouer. Et ça plaisait beaucoup aux agences de publicité.
Et pourquoi n'en faites-vous plus?
Parce qu'on a arrêté de m'en proposer. Je ne vais pas les appeler pour leur dire « au secours, je voudrais faire des pubs
». Surtout quand on fait des films comme par exemple « Convoi exceptionnel » qui est en salle depuis mercredi. Alors, « Convoi exceptionnel », tournage exceptionnel pour un casting exceptionnel. Et à la fin de ce film, Bertrand Blier, vous avez autorisé et donc monté quelque chose que, paraît-il, vous n'aviez jamais accepté en presque 50 ans de cinéma. C'est-à-dire une longue improvisation faite par Gérard Depardieu. Une improvisation aussi surprenante que réjouissante. Racontez-nous comment ça s'est mis en place.
Ce qui s'est passé, c'est que le film était trop court. Le scénario était trop court. On avait fait un minutage trop court. Donc mon producteur, à juste titre, m'a dit il faut rallonger, il faut faire au moins une heure et demie, sinon on a l'air de con. Donc j'ai rajouté des scènes et j'ai rajouté une scène pour la fin du film.
Ouais.
Que je n'ai pas écrite, mais je l'ai raconté aux acteurs, je leur ai dit, voilà, vous êtes tous les deux en train de dîner d'une manière appétissante, des foie gras, des choses comme ça, et Gérard, tu vas parler d'un truc qui te plaît dans la cuisine et tout, donc il m'a dit, je vais parler du poulet. Donc on a tourné et il a improvisé sur la façon de cuire le poulet.
Mais en donnant ses propres recettes.
Ses recettes et sa passion pour la bouffe. Il adore manger, il aime beaucoup faire la cuisine.
Ah oui.
Donc il y a une improvisation qui dure, je ne sais pas, 7-8 minutes, où c'est Depardieu qui raconte de la cuisine. Quoi.
Devant un clavier aux yeux écarquillés.
Le clavier parle aussi, mais il est assez estomaqué quand même.
Et ça a été une prise, j'imagine, puisque c'est une impro.
Une prise, oui.
Et vous avez été conquis. Dès que vous avez dit stop à cette prise, vous savez que vous alliez la monter.
Quand c'est Depardieu qui raconte, qui improvise, c'est assez bien, quoi. Il n'y a pas de problème.
Mais parfois, les films, on les fait renaître d'une autre façon au montage. Parce qu'on a tellement de prises qui peuvent disparaître, qu'on trouve formidables, puis qu'on intègre moins aisément. Vous tournez beaucoup pour pas mal de prises écartées ou bien vous savez exactement sur le tournage où vous allez?
Non, je tourne très peu, je fais très peu de prises. Pourquoi? Parce que je tourne toujours avec des grands acteurs. Donc les grands acteurs, ils ne se trompent pas. Bon, on fait deux prises, trois prises. Trois prises, c'est la Saint-Barthélemy pour moi. Donc voilà, donc j'ai très peu de prises. Le montage se fait très vite. Ça m'est arrivé de monter des films en trois jours. Buffet Froid, on l'a monté en trois jours.
Vous avez monté en trois jours, Buffet Froid.
Ben, on n'a rien coupé. Donc, on collait les séquences, on disait ça, on va l'enlever, il y a un plan en trop, d'accord? Ça prenait à peine l'après-midi.
Bertrand Blier, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez déjà, en fait, en tête le prochain film que vous allez réaliser. Il s'agissait simplement d'en écrire le scénario, mais existe-t-il un film que vous avez en tête depuis de nombreuses années sans avoir pu encore le réaliser et que peut-être vous tournerez après celui auquel vous pensiez tout à l'heure lorsque je vous ai posé la question?
Il y a des films que j'ai en magasin et que j'aurais bien aimé tourner, oui. Mais on ne peut pas tout tourner non plus.
Et cela, pourquoi ne voit-il pas le jour?
Je ne m'en occupe pas, je les laisse tranquilles.
Vous laissez les choses reposer et puis à un
ça
moment
repose,
donné...
Ça repose et puis voilà, et puis il y en a peut-être un qui sortira. Peut-être un jour, parce que ce qui m'arrive parfois, c'est que j'ouvre un dossier et je trouve une réplique. Parfois, il y a une page blanche. Ça m'est arrivé pour ma première pièce. Je sors un dossier et je revois une page sur laquelle il y a marqué « Je viens pour vous faire chier ». Et c'était une note que j'avais prise à la fin d'une conversation avec Serrault. Serrault et moi, on était voisins, donc il venait chez moi souvent. Et j'avais noté cette phrase. Donc j'ai sorti la page, je l'ai mise sur mon bureau et j'ai écrit la pièce. Et la pièce, c'est la suite de « Je viens pour vous faire chier ». C'est tout. Et la pièce a marché très bien, c'était merveilleux,
oui.
Avec Bouquet et Noiret.
Oui.
Voilà. Mais c'est une réplique. La première phrase d'un roman ou d'un film, c'est primordial.
Oui, oui.
Alors parfois, on fait... j'en ai un autre aussi, comme ça, j'ai un... mon troisième roman qui s'appelle Existant Blanc. Ça commence par cette phrase. J'ai toujours été fasciné par les soutiens-gorge. Et derrière, il y a 400 pages.
Voilà. Mais ce film-là n'a pas vu le jour, Bertrand Blier.
Il a failli voir le jour. Il a failli voir le jour. Il peut toujours faire voir le jour.
Ouais.
Mais c'est moi qui cale.
Pourquoi ?
Parce que c'est trop hard. Et que donc, je pense qu'à notre époque, on n'a pas besoin de voir des choses comme ça. Par exemple, c'est un film dans lequel on tue des femmes. Buffet froid, j'ai tué des gens, j'ai tué 11 personnes.
Le parfum, mais on tue aussi des femmes pour voler l'odeur de l'amour.
C'est le parfum. C'est le parfum que Kubrick n'a pas tourné.
Ouais.
Bon. Et tuer des femmes aujourd'hui, ce n'est pas possible. On peut en tuer une, éventuellement par accident, mais en tuer 14, honnêtement, je ne me sens pas. Je n'ai pas envie d'être le monstre, finir sur une image de monstre.
De toute façon, vous ne finissez pas, il ne s'agit pas de finir. Le film, en ce moment, en salle, a pour titre « Convoi exceptionnel ». Et je reprends vos mots, Bertrand Blier. Vous dites « Faut penser au public, à qui on montre toujours les mêmes choses. Convoi exceptionnel, ça ne ressemble à rien d'existant, et c'est ça qui est bien. » Et moi, je confirme. Alors, merci infiniment pour ce film qui... Donc, réunis à l'affiche en ce moment, Depardieu, Clavier, Alex Lutz, Audrey Dana, Farida Rawaj, Sylvie Testu, Guy Marchand aussi, avec un monologue tout à fait étonnant, et Alexandra Lamy, excellente. Je vous remercie infiniment. On poursuivra cette conversation, n'est-ce pas ?
Faut se voir régulièrement.
Je trouve aussi.
Pour suivre les événements.
Absolument. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Et à demain, Isabelle Morizet, 15h sur Europe 1 pour une conversation à cœur ouvert, autant que faire se peut. Ce sera au tour de l'homme d'affaires, l'homme d'influence Alain Minc, de se raconter, même s'il n'aime pas spécialement se dévoiler. À suivre, Carl Zéro et ses tontons flingueurs, la rediff du week-end. Europe 1.